VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. Crise libyenne, est-ce l'accord tant attendu en Libye? En tout cas, un document a été signé aujourd'hui sous l'égide de l'ONU au Maroc pour les parties libyennes. Un texte déjà contesté, Nicolas Pineau.
C'est près de Rabat, la capitale marocaine, que l'annonce a été faite. C'est un jour historique pour la Libye, a déclaré l'émissaire de l'ONU, Martin Kobler, lors de la cérémonie de signature. Des députés et des hommes politiques libyens ont donc signé un accord pour sortir le pays du chaos, et ce, malgré l'objection des deux parlements rivaux qui l'ont rejeté d'avance. L'accord prévoit la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et d'un conseil présidentiel au début d'une période de transition qui devra s'achever par des élections législatives. Dès hier, le président du Conseil général national, Nouri Abou Sarmeyn, avait annoncé qu'un tel accord n'avait aucune légitimité. Celui qui n'a pas été mandaté par le CGN pour signer ou paraffer un accord en son nom est et restera sans légitimité, avait-il déclaré depuis Tripoli. M. Abou Sarmeyn avait rencontré mardi à Malte Aguila Saleh, président du Parlement rival, celui qui est reconnu par la communauté internationale et siégeant à l'Est. C'est une première depuis l'établissement en août 2014 d'un pouvoir parallèle à Tripoli à la suite de la prise de la capitale par une coalition de milices Fajr Libya. Lors d'une conférence de presse conjointe mardi, les deux leaders avaient affirmé que ceux qui signeraient l'accord de jeudi ne le feraient qu'à titre de membres de leur parlement respectif et non pas de représentants officiels.
Afrique subsaharienne maintenant, la crise au Burundi. L'Union africaine ne laissera pas un autre génocide se dérouler sur le continent, a fait savoir aujourd'hui le Conseil de paix et de sécurité de l'UA au sujet des violences au Burundi. Et ce, après une réunion du Conseil à Addis Abeba. Pour sa part, à New York, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Power, a exhorté les Nations Unies à se préparer plus activement à agir au Burundi. Le secrétaire général Ban Ki-moon envoie son émissaire dans la région, Bagassi-Kora.
Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas assez de planification d'urgence, a affirmé Samantha Power devant la presse aux Nations Unies, jugeant la situation au Burundi horrible. Elle a rappelé les images de cadavres retrouvés dans les rues, les mains liées et avec des balles dans la tête. Elle a dit craindre le pire. Le Conseil de sécurité a envisagé le mois dernier de déployer des casques bleus au Burundi. La Russie, la Chine et les membres africains du Conseil sont plutôt réticents à cette idée. Ban Ki-moon a annoncé que son émissaire pour le Burundi, Jamal Ben Omar, se rendra sur place dans les prochains jours. Il va s'entretenir avec l'Union africaine, les pays de la région et le gouvernement burundais pour tenter de promouvoir un dialogue crédible et sans exclusive. Depuis le début de la crise, des centaines de personnes ont été tuées et plus de 200 000 Burundais ont fui le pays.
La RCA, après deux ans de crise, attend les résultats du référendum constitutionnel qui devrait être connu demain 18 décembre. Mais nouvel obstacle à la normalisation, un chef de l'ex-Séléka, le général Noureddine Adam, numéro 1 du FPRC, le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, a proclamé l'indépendance d'une république dite de Dar el-Kouti, qui est un ancien sultanat dans le nord du pays. Une initiative condamnée catégoriquement par le gouvernement de transition et les habitants de l'enclave musulmane de PK5 à Bangui. En Afrique du Sud, les manifestations se multiplient pour réclamer la démission du président Jacob Zuma. Les protestataires accusent le chef de l'État de mettre en péril l'économie sud-africaine pour servir ses intérêts personnels, suite à la récente valse de ministres à la tête du ministère des Finances. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Le président Zuma est en effet un premier ministre. Il est élu par le Parlement et la majorité simple de l'Assemblée du Parlement peut aussi le substituer. Ce n'est pas un président élu directement par le peuple. Ainsi, le Parlement, c'est-à-dire la majorité dans le Parlement, le parti ANC, a le pouvoir de le remplacer. C'est ainsi que le président Thabo Mbeki est parti, quand il a compris qu'il n'avait plus de majorité dans l'Assemblée nationale et quand il a compris que son parti allait même appuyer un vote pour sa substitution, c'est alors qu'il s'est démissionné. Si ce signal parvient à Zuma, oui, là aussi, il n'aurait peut-être pas d'autre chance que de se démissionner. Il y a un encouragement aussi constitutionnel. Le président en Afrique du Sud, s'il est remplacé, perd ses privilèges. Le président qui part de sa propre volonté, qui se démissionne, ne perd pas le privilège, il sera bien tenu pour le reste de sa vie.
Le professeur André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, la Haute Cour fédérale de la capitale Abuja a ordonné la libération sans condition du militant indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu, actuellement en détention par les services secrets nigérians. En soulignant que les accusations de terrorisme et soutien du terrorisme n'étaient plus retenues contre lui. Nnamdi Kanu est un membre fondateur du groupe Interdit Peuple Indigène du Biafra et le directeur de Radio Biafra, considéré comme séditieuse par le gouvernement nigérian. Hier, un autre tribunal d'Abuja avait prononcé un non-lieu en sa faveur, l'exonérant des autres charges de conspiration et appartenance à une organisation illégale portée contre lui. L'arrestation de Nnamdi Kanu en octobre a suscité une vague de protestations dans le sud-est du Nigeria, où la sécession du Biafra, 7 ans après l'indépendance du Nigeria, avait débouché sur un terrible conflit de 3 ans entre 1967 et 1970, ayant fait environ 1 million de morts, beaucoup ayant succombé à la famine et aux maladies. En Côte d'Ivoire, le procès des suspects accusés d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gay, ex-chef de la junte ivoirienne en 2002, a commencé aujourd'hui dans le quartier du Plateau à Abidjan. Des détails avec Orzuma Compaoré.
Au total, 24 militaires sont poursuivis au tribunal militaire pour le meurtre du général Gay, de son épouse et de plusieurs membres de sa famille et de sa garde rapprochée. Mais seuls 19 prévenus ont comparu au procès, notamment le général Dogbo Blé, ex-commandant de la garde républicaine et homme fort du régime de l'ancien président Laurent Gbagbo, et Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka, ex-responsable de la sécurité rapprochée de Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien chef de l'État. Selon le procureur militaire Ange Kessi, ces deux hauts responsables sont les principaux suspects. Rappelons que le général Gay, leader de la junte militaire installée au pouvoir après le coup d'État du 24 décembre 1999 contre le président Henri Konan Bédié, avait été vaincu par Laurent Gbagbo à la présidentielle d'octobre 2000 et chassé du pouvoir par la rue après avoir tenté de se maintenir à la tête du pays. Rentré par la suite dans son fief dans l'ouest du pays, le général Gay et plusieurs proches, dont son épouse, ont été assassinés le 19 septembre 2002, jour du coup d'État manqué contre le président Gbagbo, qui avait entraîné la prise du contrôle du nord et de l'ouest du pays par la rébellion des forces nouvelles. Robert Gay était soupçonné d'être l'instigateur de ces troubles par le gouvernement Gbagbo, d'où les accusations de meurtre du général par les pro-Gbagbo formulées par les partisans du Robert Gay, des allégations toujours rejetées catégoriquement par le camp Gbagbo.
Afrique de l'Ouest toujours, selon l'Organisation mondiale de la santé, la réapparition de l'épidémie d'Ebola au Libéria fin novembre est liée à la persistance du virus chez une personne précédemment guérie de la maladie. Le point avec John Lyndon.
L'OMS, dans son bulletin hebdomadaire, a annoncé hier que les récents cas au Libéria sont le résultat de la résurgence du virus Ebola. D'après Gregory Halt, porte-parole de l'OMS, une personne était tombée malade une première fois, puis a guéri et a ensuite retombé malade une deuxième fois. L'organisation basée à Genève suggère de suivre les personnes guéries en procédant à des analyses de leur fluide corporel pour détecter l'éventuelle présence du virus. Le 4 décembre, les deux derniers cas connus d'Ebola au Libéria ont été déclarés guéris. Le pays avait été déclaré exempt en mai, mais 7 semaines plus tard, de nouveaux cas ont été recensés. Le Libéria a de nouveau été déclaré exempt le 3 septembre, mais le 20 novembre, un nouveau cas a été confirmé. Le pays devrait à nouveau être déclaré exempt de transmission le 28 décembre, si d'ici là, aucun nouveau cas n'est signalé.
L'actualité dans le reste du monde maintenant, le Pakistan a confirmé sa participation à la coalition de 34 pays majoritairement musulmans contre le terrorisme. Islamabad, qui a dénoncé pendant des années ce qu'il appelle l'interventionnisme américain, reste très prudent sur la nature de ses interventions militaires extérieures. Le ministère des Affaires étrangères s'était cantonné dans un premier temps à saluer la création de l'Alliance. Selon Riyad, les pays membres échangeront des informations, fourniront du matériel et de la formation et mettront des forces à la disposition de l'Alliance si nécessaire. Et pour terminer, ici aux États-Unis, l'attaque contre un centre de réservistes à Chattanooga dans le sud du pays qui avait coûté la vie à 5 militaires américains en juillet est bien un acte inspiré par un groupe terroriste. C'est ce qu'a finalement reconnu le Pentagone et le FBI et la police fédérale. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.